Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h30 en temps universel, 8h30 à Maurice. L'actualité africaine, c'est avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Diane, bonjour à toutes et à tous.
Jour de vote à Maurice pour débuter votre journal.
Élections législatives et nous serons donc à Port-Louis dans quelques instants. Nous appellerons notre correspondant pour faire un point un peu plus d'une heure et demie maintenant après l'heure prévue pour le coup d'envoi. Mettre fin à l'immunité dont jouissent les membres du gouvernement et mettre en place un parquet financier. Les propositions de l'inspecteur général des finances de RDC hier à Kinshasa, quatrième journée des états généraux de la justice. Autoriser la contraception dès l'âge de 15 ans et non plus à 18 ans. Un projet de loi débattu au Parlement au Rwanda. L'objectif est de limiter les grossesses précoces souvent à risque. Une balade au milieu des pirates, au cimetière des pirates, un lieu touristique sur l'île de Sainte-Marie à Madagascar. L'actu sport également au programme, bien sûr, comme tous les jours. Soyez les bienvenus. Un dimanche électoral à Maurice, donc, pour débuter. Élections législatives pour lesquelles un peu plus d'un million d'électeurs sont appelés aux urnes dans quelques 340 centres de vote. Ils ont ouvert normalement il y a une heure et demie. Ils devraient fermer leurs portes à 18h heure locale. Alors, sans plus tarder, on appelle notre correspondant à Port-Louis. Bonjour Abdoulaye Rally.
Bonjour.
À l'heure où on se parle, comment s'annonce cette journée de vote? Où en est-on à présent?
Eh bien, c'est une journée classique, hein. C'est la 13e fois que les Mauriciens vont voter pour les législatives dans leur histoire. C'est une journée classique, mouvement lent ce matin aux alentours des bureaux de vote, des centres de vote à travers le pays. Mouvement lent, mais néanmoins le folklore est là, beaucoup de couleurs dans les rues de Port-Louis. Couleurs qui dominent en ce moment, c'est le rouge et puis il y a le mauve. Et l'orange. Voilà un peu ce qu'on peut voir ce matin. Et puis c'est l'été, hein, ici, il commence à faire chaud, c'est un dimanche, les rues sont très calmes. Sinon, ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans la périphérie de la capitale où je me trouve en ce moment, il y a la mobilisation surtout des agents électoraux, des représentants de différents partis, qui sont habillés aux couleurs de leur parti, bien entendu. Ils sont extrêmement visibles et ils ont installé un peu le long des différentes routes des kiosques le temps pour eux, pour accueillir des électeurs qui iront voter. Mmh. Mais le mouvement est très lent. Mmh. Peut-être dans quelques heures, on aura les premiers chiffres de la participation de l'électorat mauricien. Mais d'habitude, le mouvement est massif. On a enregistré la dernière fois autour de 75% de votants à Maurice. Mmh. Ici, il faut aussi rappeler que la commission électorale a appelé les électeurs à aller voter très tôt aujourd'hui.
Et en ce qui concerne le vote, alors justement, Abdoulaye, quels sont les enjeux de cette élection aujourd'hui ?
En résumé, il y a deux grandes coalitions, deux coalitions majeures, l'Alliance du Peuple qui est au pouvoir et l'Alliance du Changement qui est donc dans l'opposition. C'est un grand rassemblement dans les deux cas, un grand rassemblement de différents partis politiques. Ce sont les deux coalitions majeures, après il y a encore d'autres partis. Deux coalitions majeures résumées qu'on peut dire incarnées par deux hommes, deux figures politiques. D'abord le Premier ministre Pravin Jugnauth, 62 ans, qui appelle l'électorat à lui offrir un troisième mandat. Et puis il y a aussi Navin Ramgoolam qui, après une traversée du désert, 77 ans, 10 ans sans pouvoir voyager non plus parce qu'il fait face à plusieurs procès. Et lui également, aujourd'hui, c'est l'homme, le grand challenger. Il est à la tête de l'Alliance du Changement. On peut résumer ces enjeux à deux coalitions et deux figures politiques, Sébastien.
Merci beaucoup Abdoulaye Rally en direct de Port-Louis pour RFI. On suivra évidemment cette journée de vote avec vous à Maurice.
Port-Louis, 93.2 FM.
Les tensions ont été nombreuses ces derniers temps entre le gouvernement de RDC et la justice, qualifiée de secteur malade par le président Tshisekedi. Alors pour mettre les choses à plat, pour réfléchir aux évolutions à donner, les autorités organisent depuis mercredi ces états généraux de la justice. Plus de 3000 participants au centre financier de Kinshasa. Et la journée d'hier a été marquée par cet appel de l'inspecteur général des finances qui souhaite d'importantes réformes, à savoir notamment la fin de l'immunité pour les membres du gouvernement et la mise en place d'un parquet financier. Pascal Moulégois suit ces débats pour RFI.
Gilles Alinguété, le gendarme des finances publiques, soutient la création d'un parquet financier pour lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Des infractions que les magistrats des juridictions ordinaires peinent à réprimer, Gilles Alinguété plaide donc pour une juridiction spécialisée.
Nous avons affaire à des magistrats qui, dans leur profil de formation, avaient peur de la comptabilité, des chiffres, des finances publiques. Et aujourd'hui, la réalité, les détournements, la corruption, c'est au travers de la comptabilité, au travers des finances publiques, au travers des chiffres. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il faut créer un parquet financier où on aura des magistrats spécialisés, formés dans les infractions sur la criminalité financière.
L'inspecteur général des finances va même plus loin. Il estime que la justice est mise à mal par l'immunité dont profitent les membres du gouvernement.
Les membres du gouvernement gèrent 80% des ressources. Par conséquent, ils deviennent des cibles de contrôle. Mais ces gens-là sont immunisés. En ce moment-là, même la justice et même les organes de contrôle, nous devenons de plus en plus impuissants devant cela. Donc, il faut penser à régler ces problèmes.
En attendant, Gilles Alinguété explique gérer un contrôle préventif. Il s'agit d'une patrouille financière qui vise à empêcher tout détournement et à alerter à la moindre détection d'actes de corruption. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
C'est la deuxième fois en 2 ans que l'idée est débattue au Parlement rwandais. Autoriser les moyens de contraception, non plus à l'âge de 18 ans, mais dès l'âge de 15 ans. En baissant cette limite légale, l'idée des autorités ici, c'est d'accompagner au mieux les adolescentes, éviter des grossesses précoces, bien souvent à risque. À Kigali, les précisions de Lucie Mouillot.
Principal objectif de ce projet de loi porté par le ministère de la Santé, limiter les grossesses précoces dans le pays alors que plus de 8000 adolescentes sont tombées enceintes depuis le début de cette année. Denis Teta, responsable des politiques et du plaidoyer pour l'ONG Health Development Initiative, partenaire dans la rédaction de ce texte législatif.
Nous avons observé des niveaux très hauts de grossesses précoces de manière constante ces dernières années. Il y a beaucoup de mortalité maternelle et de sous-développement des nourrissons après ces grossesses. C'est pour ces raisons que nous défendons l'abaissement de l'âge légal.
Le sujet divise encore dans la société rwandaise. En 2022, le Parlement avait rejeté une proposition de loi similaire défendue par un groupe de députés pour des raisons culturelles, religieuses et par crainte d'inciter les adolescents à entretenir des relations. Mais depuis, les choses ont changé, soutiennent les partisans du nouveau texte.
Ces dernières années, nous avons engagé des discussions avec la jeunesse, les décideurs politiques, les parents, les enseignants. Alors nous avons plus d'espoir de faire passer cette loi. Ce texte n'a pas pour but d'inciter les adolescents à avoir des relations sexuelles. Il vise à leur donner des informations et des moyens de se protéger.
Les députés ont déjà approuvé la pertinence de ce projet de loi qui doit désormais très prochainement être étudié par un comité parlementaire avant d'être soumis au vote de l'Assemblée. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Un appel lancé au Tchad à l'occasion de la publication du livre Yaya Dilo, le sacrifice d'un héros incompris. Un livre signé Abakar Ousmane Idriss sur la mort du président du Parti Socialiste Sans Frontières, assassiné selon l'auteur le 28 février dernier lors de l'assaut du siège de sa formation politique à N'Djamena. L'auteur, qui n'est autre qu'un proche conseiller de feu Yaya Dilo, aujourd'hui en exil, il appelle à la libération de 24 personnes qui étaient présentes sur les lieux ce jour-là et qui sont actuellement enfermées au bagne de Korotoro. Abakar Ousmane Idriss réclame également la libération de Robert Gam, le secrétaire général du PSF, qui avait porté la même revendication que lui. Je vous propose de l'écouter. Il revient sur ce dossier pour nous.
Le 28, il a été assassiné devant ses enfants et ses femmes, parce que ses femmes aussi étaient au siège. Et il a été avec ses cousins et ses neveux. Certains sont des militants du Parti Socialiste, d'autres non, parce qu'il y avait des mineurs aussi. Y compris ses femmes étaient avec lui. Et lorsqu'il a été assassiné, les militants ont épargné les femmes. Et ils ont arrêté tous les jeunes. Ils les ont torturés et ensuite les déportés au niveau de Korotoro. Parmi les prisonniers, parmi les 24, il y a ceux qui souffrent aussi de maladies chroniques. Et je vous assure que beaucoup ne sont pas militants du Parti Socialiste. Ce sont ses neveux et ses cousins qui étaient avec lui. Et personne ne parle de leur libération. Ils ont transformé ce problème de Yaya en un problème familial. En fait, tout ce que nous demandons, on ne sait pas de quoi ils ont été arrêtés et pourquoi. Parce que jusqu'à là, ils n'ont pas été présentés devant un juge. Personne ne parle de leur libération. Et le secrétaire général du parti, M. Ngam Robert, on demande aussi sa libération ou bien soit le présenter devant un juge et nous dire pourquoi il a été arrêté et pourquoi ils l'ont enlevé.
L'appel d'Abakar Ousmane Idriss au Tchad. À l'abordage, Moussaillon, une plongée à présent dans l'univers de la piraterie avec une balade sur l'île de Sainte-Marie à Madagascar, un endroit stratégique sur la route commerciale de l'océan Indien et de la mer Rouge, prisée par les bandits des mers dès le XVIIe siècle. Et aujourd'hui, sur place, les curieux peuvent déambuler dans le cimetière des pirates, un haut lieu touristique. L'île accueillait d'ailleurs récemment la seconde édition du Festival des pirates. Reportage Sarah Teto.
Dressée au milieu de la lagune, l'île des Forbans a vraisemblablement constitué un repère apprécié des pirates. Une baie isolée, en retrait de la mer, un haut promontoire pour épier les navires à attaquer, une cachette idéale pour le millier de brigands venus s'y établir dès 1690.
Il y a plein de pirates qui sont passés ici. Captain William Kidd, barbé noire, barbé...
Arnaud est l'un des guides du cimetière des pirates. Pour chaque stèle, il a une anecdote, comme pour ce monument funèbre érigé en l'honneur du célèbre William Kidd.
William Kidd, lui, il était corsaire. C'est les rois d'Angleterre qui l'envoyaient à Madagascar pour éliminer tous les pirates. En 1698, lui, il était converti pirate. Et après, il est venu direct ici à Sainte-Marie. Dès qu'il est arrivé ici, il a fait un accord avec notre reine en assassinant les armes contre les esclaves. Et après, il était pendu en Angleterre, le 23 mai 1701.
La déambulation autour des pierres tombales, ornées de boulets de canon ou de têtes de mort gravées, prend un air de récit d'aventure. Quand le groupe de touristes s'arrête devant l'une des rares tombes de femmes.
Elle est morte le 25 juillet 1862, 57 ans. Avant, son mari était pirate. Dès que son mari est mort, elle devenait une piratesse. Et après, c'est elle qui est devenue la chef dans les bateaux. Les marins disent qu'une femme dans les bateaux, ça porte malheur. Et elle a été empoisonnée par les équipages.
Si la véracité des noms et des destins racontés reste à prouver, il n'en reste pas moins que l'île aux Forbans continue d'intéresser les chercheurs du monde entier. Une épave de bateau très bien conservée a d'ailleurs été découverte en mai dernier par une équipe d'archéologues du CNRS. Sarah Teto, Sainte-Marie, RFI.
À l'île de Sainte-Marie, où il est 7h42 minutes, 5h40.